Avis critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, Avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres pour réhabiliter l'universalisme. C'est une entreprise que le philosophe Francis Wolff mène de longue date en se penchant sur la notion d'humanité. Son dernier essai, Plaidoyer pour l'universel, publié chez Fayard, vient clore cette entreprise. Il s'inscrit ainsi dans un débat central, ancien mais terriblement contemporain, alors que nous n'avons sans doute jamais été aussi conscients de ne former qu'une seule humanité, l'universalisme est attaqué de toutes parts. La préoccupation est assez similaire chez la politiste Justine Lacroix et le philosophe Jean-Yves Prancher, qui co-signe « Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?» C'est au seuil. La montée des droits individuels sont accusés de tous les maux. Crétinisation des esprits, fin du politique, victoire de l'égoïsme sur la délibération collective. Pourtant, s'interrogent les auteurs, les droits de l'homme ne sont-ils pas la seule boussole dont on dispose en démocratie ? Et en studio pour débattre ce soir, Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et Jean-Marie Durand, journaliste indépendant. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Francis Wolff, c'est un peu le gros morceau théorique ce soir. Plaidoyer pour l'universel, apparu donc chez Fayard dans la collection Histoire de la pensée. Francis Wolff est philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure de Paris. On avait parlé ici de son précédent essai, Trois utopies contemporaines. Vous étiez là d'ailleurs Catherine Portevin, qui forme avec Notre humanité d'Aristote aux neurosciences, un triptyque consacré à l'idée d'humanité donc. Mais si la défense de l'humanisme était ce que l'auteur appelle lui-même un présupposé implicite des deux livres précédents, elle est ici au cœur de son propos. Au point de départ, un constat, je le disais, jamais peut-être l'humanité n'a-t-elle eu autant conscience de partager un destin commun, de former un tout pris dans les mêmes défis, du réchauffement climatique, des épidémies, du terrorisme, des crises économiques. Mais alors qu'elle s'impose dans les consciences, l'unité de l'humanité recule dans les représentations collectives et la liste est longue. Revendications identitaires, nationalisme, xénophobie, radicalité religieuse, mais aussi critique d'un universalisme jugé hypocrite, patriarcal, occidentalo-centré, quand ce n'est pas anthropo-centré. La force du livre, c'est de ne pas balayer ces accusations, non par exemple de l'héritage des Lumières, mais de les prendre au sérieux pour les défaire une à une et rendre toute leur puissance mobilisatrice et critique aux idées universalistes. Pour ça, Francis Wolff entreprend de redonner une assise philosophique et rationnelle aux idées d'universalisme et d'humanisme, une entreprise qui se révèle assez perturbante alors qu'on pourrait la penser consensuelle, car en réaffirmant l'humanisme, le philosophe entend montrer que l'humanité est la seule source de valeur et mène la charge contre tous les relativismes. C'est un livre, Catherine Portevin, assez exigeant d'un point de vue conceptuel et philosophique et très stimulant dans sa façon, comme je viens de le dire, de dynamiter un débat assez polarisé aujourd'hui.
Ah oui, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un livre passionnant. Mais alors, avec Francis Wolff, il faut lui faire confiance. C'est, non pas forcément confiance sur tout ce qu'il dit, on a le droit d'être critique, mais surtout dans la manière de d'écrire. C'est un livre qui peut être à certains moments assez impressionnant parce qu'il manie des références compliquées, c'est conceptuellement parfois difficile, il y a quelques chapitres un peu difficiles. Mais en fait, moi je conseille de lire comme on suit quelqu'un encordé en montagne, quoi. C'est-à-dire, on fait confiance, on avance. Si vous comprenez pas, vous passez les pages, c'est pas grave. Enfin, il va peut-être pas être très content d'entendre ça, mais enfin, finalement, on rentre dans une argumentation. Et moi, je trouve qu'il est en réalité, c'est ça que j'aime beaucoup dans sa façon de prendre les sujets et de les écrire. C'est un virtuose de la clarté. Il est toujours extrêmement clair. Il cherche, et je crois que cette question de la clarté est très importante pour lui. Comme philosophe, c'est un philosophe qui est spécialiste de philosophie ancienne et qui n'a jamais renoncé à la définition des choses. Qu'est-ce que c'est que l'animal? Qu'est-ce que c'est que la musique? Et qu'est-ce que l'homme, qui est fondamentalement sa grande question? En réalité, il développe une sorte d'anthropologie philosophique. Donc, ça laisse jamais indifférent un livre de Francis Wolff. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant d'avoir un livre comme celui-là, c'est que ces derniers temps, et on pourrait dire la même chose pour l'autre livre dont on parlera. Il y a une sorte de par moment des réaffirmations de grands principes, les grands principes des Lumières, l'universalité, ou alors après ça peut se convertir en galanterie, en politesse, enfin, et qui sont quelquefois un peu dogmatiques et un peu proférés comme des arguments d'autorité en disant nous avons la lumière et vous êtes dans l'ombre. C'est absolument pas la démarche de Francis Wolff, qui même lui au contraire se laisse déranger comme philosophe par les critiques de l'universalisme et notamment son soupçon d'être anthropocentré, mais surtout ethnocentré, et de ne pas faire place à
la fenêtre de la domination, voilà. C'est-à-dire derrière les droits de l'homme, voilà. Il y aurait une entreprise de domination, soit de l'Occident sur les pays du Sud par exemple, soit des hommes sur les femmes, enfin voilà.
Et sur les animaux. Et donc voilà. Et donc il prend ses critiques au sérieux, surtout comme un défi à réargumenter ce que c'est que l'universel, et en reconnaissant d'emblée que, au fond, ce qu'il dit, l'idée d'universel est finalement conceptuellement faible, de même que l'humanisme. Voilà, et je crois que l'effort qu'il a fait, après on va parler de la manière dont il s'y prend.
C'est de réarmer conceptuellement.
De réarmer conceptuellement l'universel et l'humanisme.
Oui, l'universalisme a des ennemis et il va les trouver, Francis Wolff. D'ailleurs, ça se retrouve aussi quand vous parlez de l'importance qu'il accorde à la clarté de son propos. C'est aussi en sous-main une façon de critiquer des philosophes qu'elle se prend beaucoup dans ce livre et par le passé, qui sont ces philosophes du postmodernisme, du constructivisme, avec le triangle Foucault-Deleuze-Derrida, on va dire, voilà, qu'il critique, en tout cas, son propos se place contre cette philosophie-là.
C'est drôle, parce qu'en lisant le livre de Francis Wolff, j'ai pensé au livre dont on parlait ici même avec Catherine il y a 15 jours, de Vincent Després, qui s'appelle Habiter en oiseau, qui est un livre d'une philosophe complètement un peu bizarre, originale, un peu fantasque, et qui s'inscrivait malgré tout, même si elle est un peu à part, dans un courant, disons, philosophique assez général, qui est en gros de dire depuis une vingtaine d'années, voire plus, en gros, il faut arrêter de raisonner de manière binaire et il faut mettre fin à la grande séparation, à la grande frontière entre l'humain et le non-humain, entre le végétal et les animaux, comme une manière un peu de déconstruire un peu tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années qu'on baigne tous un peu dans ce climat-là intellectuel, qui est de dire précisément il faut redistribuer complètement disons les cartes conceptuelles de la philosophie classique. Et on y croit au nom du décolonialisme, au nom de la pensée coloniale, de la question des animaux, bien sûr, la question des femmes, la question des dominés en général. Et ce qui est intéressant avec Francis Wolff, c'est que là, on a l'impression de faire une sorte, pas un retour en arrière, parce que ce serait vraiment malhonnête de le dire ça, mais comme il se retrouve dans un cours de philo d'il y a 40 ans, quoi. Comme quand on était au lycée, on retrouve les vieux classiques, on reparle d'Aristote, de Kant, enfin, comme une sorte de manière un peu assez académique, finalement, de replonger dans l'histoire de la philosophie, pour finalement défendre des idées que on avait intégrées, nous, enfants. Voilà, qu'est-ce que c'est l'humanisme, on y croyait. Et c'est vrai que, depuis pas mal d'années maintenant, tout ça, c'est un peu, évidemment, brouillé. Donc, il y a quand même quelque chose de très intéressant avec Francis Wolff, c'est qu'il nous ramène peut-être à des fondamentaux, quoi. L'humanisme, c'est une idée qui aujourd'hui en effet était complètement décriée, disons attaquée, souvent à raison. On voit bien qu'aujourd'hui, voilà, l'humanisme a du plomb dans l'aile, l'universel a du plomb dans l'aile, mais on pourrait dire que les ailes du désir universaliste aujourd'hui, elles battent de l'aile, quoi. C'est vrai. Et pourtant, lui, ce qui est intéressant dans son travail, il le fait de manière très, évidemment, un peu dure, un peu sèche, un peu dogmatique, enfin quelque chose comme ça, d'un peu raide dans la manière dont il défend cette idée d'un humanisme. Mais au moins, il y a un effort intellectuel de dire comment on repense la question de l'humanisme, comment on le refonde rationnellement, justement en se détachant de l'idée que l'humanisme, voilà, qui est une idée à laquelle maintenant on croit beaucoup, qui en gros se présenterait comme une morale universelle et finalement ne défendait qu'une morale particulière. Ça, c'est vraiment la grande critique de l'humanisme depuis 40 ans, même depuis l'après-guerre, hein. De tout le contexte philosophique de l'après-guerre en France, notamment dans la philosophie des années 50, avec déjà la lettre sur l'humanisme d'Heidegger, au texte de Foucault dans Les Mots et les Choses, au texte d'Althusser sur l'humanisme qui avait oublié la lutte des classes. Enfin bon, il y a un contexte général jusqu'à l'antispécisme depuis 20 ans. On voit bien que l'humanisme aujourd'hui, c'est compliqué. Mais lui, il le refonde de manière évidemment intelligente, en déconstruisant à la fois l'idée du relativisme culturel, du nihilisme moral, qui pour lui sont les grandes limites précisément à cette question, mais en s'accrochant finalement à une idée assez classique, mais qui l'explique très bien, car en gros, la morale universelle se fonde sur un être humain finalement doué de langage. C'est vraiment la raison dialogique, le logos, qui pour lui constitue presque l'essence même de l'être humain, à partir duquel s'invente un humanisme.
Oui, c'est ce que je voulais dire un petit peu par un livre parfois perturbant, c'est que, comme vous venez de le dire, Jean-Marie Durand, on baigne depuis un certain nombre millions d'années dans notre façon de penser, une façon de déconstruire notamment cet humanisme. Et Francis Wolff n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je vais reprendre cette citation qui, moi, m'a frappé, qui est reprise aussi en quatrième de couverture, mais qui est dans le livre. L'humanisme dit « L'humanité a une valeur intrinsèque et elle est l'unique source de valeur. » Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire ça, ça peut faire bondir. Et c'est une affirmation très forte que Francis Wolff étaye en montrant en quoi elle va contre un certain nombre d'idées aujourd'hui. Donc, vous l'avez déjà dit, d'un côté, les nihilistes et les relativistes, on leur répond « L'humanité a une valeur intrinsèque. » Voilà, il n'y a pas que des valeurs relatives et il y a bien des valeurs, surtout. Et contre ceux qui parlent notamment, qui disent « Voilà, l'humanité a des valeurs soit infra, c'est-à-dire par la classe, par la race, qui est une notion qui revient et lui-même le déplore, soit des valeurs suprahumaines comme Dieu, la nature. » Ça aussi, il va contre et il dit « Non, non, c'est de l'humanité qu'il faut tirer la source de valeur, Catherine Portevin. »
Oui, en cela, c'est une pensée qui ne peut à aucun moment être soupçonnée d'être religieuse. Et c'est une pensée fondamentalement laïque. Ce qui n'est pas toujours le cas des défenseurs des Lumières aujourd'hui, qui finalement ont une sorte de sacralisation d'un certain nombre de principes, comme si les principes sont tombés du ciel et avaient une effectivité automatique. Lui, c'est pas du tout sa démarche. Il va même plus loin dans la question de la valeur intrinsèque de l'humanité, c'est-à-dire qu'il il reprend ça aussi d'une discussion avec Kant sur la question de la morale. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que finalement, lui, ce qu'il veut, c'est pas l'échelon, c'est d'aller au-delà de la manière dont l'humanisme a quelquefois été défini, c'est-à-dire comme un idéal, comme fondé sur ce que l'homme est capable, serait capable de, si, ce que l'homme est capable de faire. Et donc, il s'agit pas de statuer, par exemple, sur est-ce que l'homme est naturellement égoïste ou altruiste, ou de valoriser la bonté de l'homme, ou je sais pas quoi. Pas du tout. Il a même une vision de l'humanité, de l'humain. Enfin, il a une assez pascalienne, ce qui peut, tout en étant tout à fait athée, il a quelque chose d'assez pascalien, très étonnamment. C'est-à-dire tirer la valeur intrinsèque de l'humanité dans ce que les hommes sont et de ce que cherche tout homme, et non non en fixant de ce qui devrait être. Et ça, c'est quand même très fort parce que
contre le théocentrisme, contre le naturocentrisme, voilà. Il le dit.
Et contre même une vision de l'homme ou une anthropologie ou une vision de l'homme optimiste ou positive ou qui préfère les bons sentiments. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est une manière complètement de désamorcer tout ce reproche qu'on peut faire aux humanistes de jouer le rôle de la belle âme. C'est pas du tout une belle âme. C'est pas du tout une belle âme. Et l'humaniste ne sera pas du tout une belle âme chez Francis Wolff. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Effectivement, les chemins par lesquels il part sont très ardus. Et la question du langage, elle est centrale, comme elle était centrale dans ses précédents livres, notamment sur tout ce livre qui s'appelle « Notre humanité » d'Aristote aux neurosciences. Ça fait 30 ans qu'il médite, qu'il mâchogne et qu'il réinterprète la fameuse phrase d'Aristote « L'homme est un animal doué de logos ». Et le logos...
Attention.
Le logos n'est pas justement seulement parler, c'est parler, ouais. Parler et la raison. Et donc,
exactement. C'est le dialogue, ce qui résume par cette formule du dialogue. Voilà, le dialogue dialogique qui est à la fois, on va dire, un apport théorique de Francis Wolff et une méthode dans ce livre, puisqu'il y a plusieurs façons de faire dialoguer ce qu'il critique avec, avec ce qu'il pense lui-même. Donc il va déconstruire un certain nombre, notamment d'arguments, de faux raisonnements. Il y a un travail de logique qui est très 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 fort et très puissant dans ce livre. Par exemple, ce n'est pas parce que des entreprises de domination se fondent souvent sur un faux universalisme ou même sur un universalisme revendiqué que l'universalisme mène nécessairement à la domination, va nous expliquer Francis Wolff. Ou alors, ce n'est pas parce que les droits de l'homme naissent dans un contexte particulier, un contexte occidental, qu'ils sont intraduisibles, qu'ils sont faits juste à la faveur des occidentaux. Il cite par exemple la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Bref, il va déconstruire comme ça un certain nombre d'arguments et de critiques de l'universalisme, et il va le faire dans une logique de dialogue. C'est un terme important,
bien sûr. Et d'ailleurs, même sur la question du relativisme, qui est vraiment l'une des grandes, justement, une des grandes critiques faites, lancées à l'universalisme, il en tire des enseignements évidemment importants. Il dit que le relativisme, d'ailleurs, culturel, est lui-même s'inscrit dans une tradition humaniste. Elle a été fondateur du projet, même, j'allais dire, des sciences sociales dès le 19e siècle, même jusqu'aux études comparatives de l'Antiquité. Bien que le relativisme, c'est évidemment une tradition humaniste importante. Le problème, c'est que, il essaye de mettre en avant le sophisme, ou disons, les ambiguïtés du relativisme, notamment sur le fait que il pose cette question intéressante, est-ce que tout relativiste est toujours pris dans un dilemme qui est précisément doit-il ou non relativiser son propre relativisme. Donc il est tout le temps en train d'essayer de travailler sur ces questions-là pour mettre en avant les ambiguïtés, les ambivalences, de même le nihilisme moral, ce qu'il appelle le nihilisme moral, qui est la deuxième grande critique après le relativisme, elle renvoie à l'idée précisément que après la mort de Dieu, pour le dire un peu vite, après avec la sécularisation, précisément on n'a plus de transcendance divine. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a plus de bien, plus de mal, on est un peu perdu, plus de repères. Et donc c'est le problème de la question de savoir qu'est-ce qu'on fait d'un humanisme qui serait construit sur rien. Et donc finalement ce qu'il appelle le deuxième âge de l'humanisme, c'est que l'homme devient la seule source, finalement, j'allais dire, possible de valeur. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de diable, il n'y a plus de vice, il n'y a plus de vertu. Donc, comment on reconstruit ça? Et donc, c'est un peu ce qu'il appelle aussi la sortie de la modernité et le drame, de la complicité de le faire. Et ce qui, évidemment, il se rattache, donc, on parlait tout à l'heure, à cette question du logos, hein, vraiment, qui est pour lui le grand motif central de son travail, en rappelant que le langage fait du réel un monde et que, précisément, la conscience humaine, elle se construit, précisément, en relation avec elle-même tout le temps, précisément par ce sens dialogique. Et donc, cet humanisme-là se construit de cette manière-là. Alors, c'est vrai que c'est une défense de l'humanisme un peu théorique quand même un peu conceptuel, hein. C'est vrai qu'on peut à la fin du livre se dire bon, ok, on n'est pas complètement toujours sûr d'y retrouver complètement, totalement, et en même temps les conséquences, les effets de son travail sont évidemment hyper importants, parce qu'il défend quand même une notion qui est à mon avis centrale aujourd'hui, c'est précisément la question de la démocratie, la question de l'égalité, la question du cosmopolitisme. Alors voilà, ça c'est sa grande, il en avait beaucoup parlé dans son précédent livre 3 utopies contemporaines, qui est pour lui la grande utopie à laquelle il croit, qui est utopie démocratique, l'idée d'un cadre commun qui dépasse des frontières. Pour lui, la frontière importante, elle n'est pas entre l'homme ou le non-humain, entre l'homme ou le végétal, elle est entre les hommes eux-mêmes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de reconstruire précisément une unité de la condition humaine. Et c'est ça, en gros, le grand enjeu pour lui de l'humanisme aujourd'hui.
Oui, on retrouve aussi chez Francis Wolff cette volonté de définir un petit peu des âges de l'humanité ou des degrés de la rationalité, premier degré, deuxième degré, troisième degré de la rationalité, et qu'il traduisait, moi je trouvais assez bien, ça apparaît un petit peu ici, mais dans le précédent dans l'ouvrage que vous venez de citer, Jean-Marie Durand, en le ramenant justement à des pronoms, l'ère du je, l'ère du tu, l'ère du il. Et donc le cosmopolitisme, c'est l'ère du il, de la troisième personne, celui où on prend conscience aussi des autres, on les prend en charge. Catherine Porteva, alors il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, mais il y a la raison, la science et l'éthique.
Ouais. Oui, du coup, il y a le bien. Enfin, c'est-à-dire, en fait, il annonce un projet, alors je pense au second degré, en disant qu'il veut faire une anthropodicée, un peu sur le modèle de ce que Leibniz avait fait avec la théodicée. La théodicée, c'est-à-dire essayer de trouver les raisons de sauver Dieu, en gros, de sauver Dieu de l'existence du mal. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, en gros, on pourrait résumer aussi sa vision de l'humanisme sur le thème « l'humanité ne vaut rien, mais rien ne vaut l'humanité ». Un peu comme sur cette fameuse phrase de, je crois, Malraux qui disait « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Et justement, lui préfère mettre l'humain plutôt que la vie.
Ouais.
Et la progression, cette progression-là, je pense qu'on peut peut-être passer un peu les étapes, mais il se pose vraiment la question, puisqu'il doit se poser la question de l'humain comme source de valeur, il faut bien qu'il s'interroge sur ce que c'est qu'une valeur et ce que c'est que le bien. Et donc là, il va, évidemment, il s'appuie sur Aristote ou Kant, mais surtout sur Aristote, pour dire en gros tout homme désire le bien, c'est-à-dire le bonheur. Est-ce que ce bien-être, comment est-ce qu'on arrive à le définir? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait que tout homme peut en être concerné? Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il est tout le temps dans une inquiétude profonde. Je passe un peu les détails sur la question du bien parce qu'on manque un peu de
temps. Des valeurs, enfin, toujours encore dans cette approche logique.
Ce que je trouve intéressant, c'est que de la question dialogique, de cette raison dialogique, ce langage qu'il défend comme étant le logos, plutôt, qui défend comme étant la spécificité humaine, ça n'est pas simplement la possibilité de parler, c'est la possibilité d'être un je qui parle à un tu, à propos du monde, à propos d'autre chose. Et quelquefois pour rien. Et c'est ça que j'aime bien aussi, là, quelquefois des phrases du genre, ce qui fait la spécificité de l'humanité, c'est papoter, bavarder, palabrer, c'est-à-dire pas forcément avoir une discussion. Et c'est aussi dire non, la possibilité de nier les choses. Donc ça, c'est sa réflexion dialogique, dont il tire deux grands principes qu'il cherche à incarner aussi politiquement, c'est-à-dire la question de l'égalité, de la présupposition de nous sommes entre égaux, je et tu sont égaux, et de la réciprocité. Mmh. Et que ça, c'est les deux principes, d'ailleurs on les retrouve comme étant ceux qui fondent aussi l'idée de l'égalité, de l'articulation de l'égalité et de la liberté dans les droits de l'homme. Mais pas seulement. Voilà, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, son inquiétude pour la question de l'unité du genre humain qui, de son point de vue, est de plus en plus menacée. Ouais.
Et c'est pour ça qu'il dit que démocratie et cosmopolitisme sont les meilleures images politiques des idéaux humanistes. Un dernier mot, Jean-Marie Durand.
Oui, non, mais que moi je trouve que la grande idée quand même de ce livre, à laquelle moi je suis évidemment attaché, qui me semble aujourd'hui essentielle à défendre, c'est que l'idée précisément, c'est que l'universalisme n'est pas précisément une forme d'uniformité. C'est au contraire, c'est l'universalisme qui permet la coexistence de cultures différentes. Et il dit que la diversité aujourd'hui, elle ne peut exister précisément que sous le chef, ce qu'il appelle d'un universel de second degré, qui vient englober précisément cette diversité. Et aujourd'hui, il suffit de voir l'état du monde en ce moment, les manifestations dans tous les pays, du Liban à Hong Kong, on voit bien qu'aujourd'hui, au Chili, on voit bien que voilà, c'est précisément toutes ces contestations, elles procèdent quoi, précisément d'un universel, c'est-à-dire de droits sociaux, de droits humains qui veulent être défendus, et c'est cet humanisme-là qu'il faut aujourd'hui défendre et que lui s'attache précisément à fonder d'un point de vue, j'allais dire, rationnel et philosophique, un peu sec, mais quand même assez puissant.
Oui, dans cette puissance qu'a Francis Wolff à trouver des formule ou des questions, il dit, peut-on inférer de l'indéniable diversité des coutumes la relativité éthique? Je vous laisse avec cette question, vous avez 4 heures. Francis Wolff, plaidoyer pour l'universel, c'est donc aux éditions Fayard.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bourbois.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did I get you the train? Heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for Jay. But did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cave?
Pink Floyd, I wish you were here. Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Justine Lacroix et Jean-Yves Prancher, Les droits de l'homme rendent-ils idiots, publié aux éditions du Seuil, dans la collection La République des idées. Justine Lacroix est professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, où elle dirige aussi le Centre de théorie politique. Jean-Yves Prancher est professeur de philosophie politique, lui, également à l'Université libre de Bruxelles. Ensemble, ils avaient déjà publié sur le sujet Le procès des droits de l'homme, généalogie sociologie du scepticisme démocratique, c'était au Seuil en 2016. Ils poursuivent ici le même objectif, prendre au sérieux les critiques des droits de l'homme qui se sont multipliées et ont pris de l'ampleur ces dernières années, notamment sous l'accusation de droit de l'hommisme, de bien-pensance, qui oublierait les contraintes de l'action politique. Ce nouvel essai plus court propose donc une synthèse des arguments en présence, l'objectif étant d'essayer de comprendre ce qui pousse des responsables politiques et des intellectuels, de droite comme de gauche, à s'en prendre aux principes et aux fondements juridiques des droits de l'homme plutôt qu'à leurs transgressions. Car c'est le point de départ du livre. Alors que certains regrettent un supposé diktat des droits individuels et des revendications particulières, il y aurait en réalité une érosion des droits qui font peser une menace sur la démocratie. Les auteurs entreprennent donc de défaire une à une ces critiques, les droits de l'homme vus comme une arme pour faire accepter le capitalisme et les dominations occidentales, le sujet de droit qui signerait la mort de la société, son narcissisme qui en ferait enfin un mauvais citoyen, pour au final mettre fin aux politiques. L'enjeu, Jean-Marie Durand, c'est de fournir des armes conceptuelles contre ce que les auteurs estiment être une menace, donc je le disais, contre la démocratie, qu'elle vienne d'ailleurs de l'extérieur ou de l'intérieur de celle-ci.
Tout à fait, on parlait à l'instant, à travers le livre de Francis Wolff, de la crise de l'universalisme contemporain. On pourrait dire que, d'une certaine manière, l'une des traductions les plus fortes de cette crise-là, c'est la critique dont font l'objet les droits de l'homme, et depuis maintenant, quand même, pas mal d'années, les auteurs mettent en avant un moment pour de bascule qui serait l'article de Marcel Gauchet paru dans la revue Le Débat en 1980, les droits de l'homme ne font pas une politique, qui est un moment en effet de retournement vraiment sur cette question, et depuis cette question s'est creusée, radicalisée et évidemment ouverte à beaucoup d'autres enjeux, et on voit bien qu'aujourd'hui les droits de l'homme n'ont pas disons bonne réputation. Et c'est vrai que le travail de Justine Lacroix et Jean-Yves Franchère, que je trouve excellent, qui est bon, alors, c'est un petit livre là, facile à lire très vite, qui est une sorte de synthèse en effet,
vous l'avez dit, pour se reposer après avoir lu le livre de Francis Wolff.
Voilà, c'est une synthèse de l'ordre de livre qu'ils avaient fait paraître au Seuil il y a 2-3 ans, je crois, le procès des droits de l'homme sur la généalogie du scepticisme des démocratique. C'est une manière très très simple et assez efficace de remettre un peu à plat toutes ces questions-là pour précisément à la fois, j'allais dire, éclairer le débat, mettre un peu, disons, à jour toutes les confusions qui existent aujourd'hui là-dessus, parce que l'une des grandes questions et un peu scandale à mon avis, et là je suis les auteurs à fond, je reconnais, c'est que la critique des droits de l'homme confond tout et n'importe quoi. Notamment, les droits de l'homme rendraient crétins. Bon, ça c'est, ils reprennent l'expression à Marcel Gauchet, encore lui, qui est un peu une cible du livre, hein, qui a fait un entretien dans la revue Élément il y a 2 ans, en 2017, qui s'appelait La bien-pensance engendre la crétinisation.
La revue Élément qui est la revue d'Alain Benoît, voilà, qui est... d'extrême droite,
clairement. Donc il y a cette question du crétin, qui est complètement absurde, mais plus que ça, j'ai envie de dire, c'est que ce qui me semble plus grave et plus inquiétant, d'indexer les droits de l'homme à ce qu'on appelle aujourd'hui la culture de l'incivilité, du narcissisme, des individus qui seraient capables, au nom des droits supposés, faire tout et n'importe quoi, au nom de leur confort personnel, comme si aujourd'hui on confondait tout et n'importe quoi. Et les droits de l'homme, on leur fait porter beaucoup de choses là-dessus. Donc évidemment, c'est une manière pour eux d'essayer de mettre au clair la chose, enfin le débat, et notamment à travers une question qui m'intéresse beaucoup, qui est aussi la question de ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui serait précisément la démocratie liée au marché, et qui est une grande critique notamment qui arrive plus, disons, à la gauche finalement du champ idéologique, hein, à travers un auteur comme Jean-Claude Michéa, qui est aussi l'une des cibles assez importantes du livre, au nom duquel il faudrait penser que les droits de l'homme sont liés précisément à cette idéologie libertaire post-68arde, liée à l'extension du marché. Or, le travail de Justine Lacroix et Jean-Yves Franchère est, pour le coup, implacable, et l'archéologie qui fonde du néolibéralisme, qui a été faite par plein d'auteurs, je pense à Serge Audier, à Christian Laval, ou Pierre Dardot, par exemple, et d'autres, ou Andy Brown, par exemple, montre que, précisément, non. Toute la question, c'est que le néolibéralisme et le néoconservatisme s'allient, font une alliance stratégique, et sont contre, précisément, la question des droits. Donc, déjà, c'est une confusion qui est absurde et qui déconstruit parfaitement.
Alors voilà, ça, c'est une des jambes du livre, Jean-Marie Durand, sur la défense des droits de l'homme. L'autre, c'est de dire, Catherine Porteva, qu'on est dans une situation d'érosion des droits. Et c'est vraiment la rencontre de ces deux situations, finalement, ce paradoxe, c'est-à-dire de dire, voilà, au moment où on critique le plus les droits de l'homme, qui, encore pour reprendre les critiques, rendrait idiot, ferait émerger un individu incapable de vivre en société, obnubilé par ses droits, son droit à, même s'ils reconnaissent qu'il y a une part de vérité, en tout cas de réalité dans certaines de ces critiques, mais face à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la remise en cause, par exemple, dans des démocraties qui se disent illibérales, ils montrent bien bien que ça n'existe pas une démocratie libérale, mais voilà, on pense à la Hongrie de Orban, face à la situation qui est faite aux migrants en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, face à l'érosion des droits individuels dans les politiques sécuritaires de lutte contre le terrorisme. Il est étonnant, pour le moins, selon les auteurs, de voir cette critique des droits de l'homme.
Oui, c'est ça, c'est le point que je trouve vraiment intéressant et qui fait que entre le précédent livre que les deux auteurs avaient signé, Le procès des droits de l'homme, qui était une vraie histoire des idées, il y avait une partie historique beaucoup plus développée que dans celui-ci, et ce livre-là, il s'est écoulé, je ne sais plus quelle est la date de
du 2016. Procès,
2016, et celui-ci, il y a quand même, la situation a empiré, disons, voilà, la situation intellectuelle et c'est parce que la situation politique, mais ce qui vise aussi, c'est une sorte de dégradation quand même du débat intellectuel, et l'attaque contre Marcel Gauchet, elle est, je trouve, très bien menée, parce qu'elle est menée avec mesure quand même. Il le traite pas comme si c'était un affreux facho quand même, c'est, ou Pierre Manon, ou mais quand même il pointe un certain nombre de contradictions, pour ne pas dire pire, qui sont qui sont quand même et les responsabilités aussi de cette droitisation du débat, si on peut dire ça d'une façon un peu rapide. En tout cas, entre le précédent livre et celui-là, ce qui a changé, c'est aussi cette situation dont vous parliez, c'est-à-dire non pas l'expansion des droits individuels, mais plutôt leur remise en cause. Alors on peut parler effectivement de la remise en cause des droits, toutes les lois. La loi anti-casseurs qui n'est finalement pas passée, mais les lois sécuritaires, mais aussi dans le milieu du travail, un glissement vers une théorie plutôt du contrat qui permet, en fait, sur des accords soi-disant donnant-donnant, en fait, de rendre encore plus précaires les droits garantis aux travailleurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment...
Les travaux intéressants de Robert Castel et voilà, Alain
Souteau sur cette section-là. Et qui, en fait, on se dit, Robert Castel, il a écrit la question de l'insécurité sociale, ce qu'il appelait l'insécurité sociale, dans les années 90, si je me souviens bien. Et ça serait intéressant de le relire aujourd'hui, parce que...
C'est un livre qui reste cité, bien sûr.
Ouais. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que... Et ce qu'ils disent, c'est qu'en réalité, comme seul droit individuel nouveau, il y a guère que les droits accordés aux minorités sexuelles, enfin aux minorités, aux homosexuels, le mariage homosexuel, le mariage pour tous, et voilà, c'est à peu près la seule chose en Europe qui ait progressé.
Disant bien que ce qu'on appelle un droit sociétal de l'extérieur, pour les gens qui sont concernés, est un droit social. Voilà, il montre aussi que...
Et ça c'est intéressant aussi, parce qu'ils traitent, ils disent aussi une chose intéressante, parce que ça, on a beaucoup traité ça ces derniers temps, sur la question de la gauche qui s'est perdue un peu dans le combat des minorités, la question de la discrimination, et eux récusent complètement cette séparation, en disant que l'un ne va pas sans l'autre, l'un est la condition nécessaire mais pas suffisante de l'autre.
Il ne faut pas que leur récuser, hein, parce qu'il y a véritablement, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Marie Durand, une volonté de démontrer, c'est-à-dire de refaire aussi la généalogie intellectuelle et politique de ce mouvement.
C'est vrai que ce retournement qui aujourd'hui se concrétise, voilà, dans le droit, hein, le travail de Mireille Delmas-Marty, qui est cité aussi dans le livre, ce point de vue-là est évidemment important, puisqu'elle montre bien aujourd'hui que la dangerosité a pris le pas sur la culpabilité, et que les mesures de sécurité aujourd'hui l'emportent sur la peine. Donc il y a vraiment un retournement même du travail juridique. Mais au-delà de ça, c'est assez frappant de voir que chez les citoyens eux-mêmes, la question des droits aujourd'hui devient extrêmement faible. Elle cite à un moment un article du Monde qui faisait même référence à une étude Ipsos qui avait été faite pour Human Rights Watch, je crois que c'était en 2018. C'était une grande enquête qui avait été menée auprès de 30 pays sur la perception des droits humains. Il était frappant de voir que, par exemple, en France, un tiers seulement des citoyens considèrent que les atteintes aux droits fondamentaux sont un réel problème. C'est une manière de dire qu'il y a quand même malgré tout un basculement sur une sorte d'aujourd'hui de collectivement, hein, une incapacité à estimer que les droits humains comptaient une conquête de siècles et de siècles, et aujourd'hui est plus tellement un problème, quoi. Alors on pourrait dire que c'est un problème d'enfant gâté, alors il y a peut-être un peu de ça aussi, c'est vrai, mais c'est fou d'imaginer qu'aujourd'hui ceux qui dénoncent l'idéologie des droits de l'homme ne mesure pas le fait que précisément aujourd'hui il y a moins de droits qu'avant, enfin c'est et qu'ils sont attaqués. Donc il y a quand même une sorte d'ambivalence, d'ambiguïté, et cette régression des droits et sur le plan juridique et politique et sur le plan intellectuel évidemment est une question évidemment inquiétante, et le livre en traduit, je trouve, très très bien l'enjeu.
Alors parmi les critiques qui sont faites aux droits de l'homme, qui nous rendraient idiots, c'est l'une des critiques un petit peu générales, on va dire, qu'on peut entendre ici et là sur cette question, c'est ce qu'on appelle le droit de l'hommisme. Il y a une critique qui vient de gauche et sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu maintenant, qui est de dire les droits de l'homme nous obligeraient à bénir le capitalisme. La critique de gauche, donc, c'est de dire qu'il y a dans la mise en avant des droits individuels une rencontre avec le libéralisme et même le néolibéralisme. Vous avez commencé à en parler un petit peu, Jean-Marie Durand, mais il y a Catherine Portevin, j'aimerais aussi vous entendre là-dessus, dans le travail de Justine Lacroix et Jean-Yves Prancher, une façon de déconstruire véritablement cette idée et d'aller au fondement de la pensée de Reagan et de Thatcher, mais aussi de Friedrich Hayek ou d'Irving Kristol, qui sont des théoriciens véritablement du néolibéralisme et du néoconservatisme, et qui sont très 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 loin de valoriser les droits humains.
On est même vraiment dans une version de ce que Chamaillou, parmi les autres auteurs qui ont écrit là-dessus, a appelé le libéralisme autoritaire. En réalité, c'était les seuls droits qu'ils pouvaient reconnaître, c'était des droits à la circulation des biens et aux droits d'émigrer, qui d'ailleurs est un de ceux qui sont les plus attaqués aujourd'hui. Mais sinon, c'est un passage très intéressant, et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les idées claires sur ça et sur les généalogies intellectuelles. Je trouve que c'est la personne d'Hayek et toute ces décennies à partir des années 70-80 de ce tournant néolibéral, il a une réalité et qui n'est certainement pas celle de la récupération par le capitalisme de la demande de droit. Mais il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu, surtout en France, aussi à travers les grands livres de la critique de 68, des Ferry, des Gaucher, une sorte de tout ce vocable libéral-libertaire qui a été comme une sorte d'alliance objective entre le libéralisme et eux, ils montrent beaucoup que ce sont les mêmes qui ont dénoncé cette collusion, qui ont en fait approuvé aussi le néolibéralisme. Donc c'est quand même une chose assez étonnante de ces retournements de situation.
Oui, vous citiez la situation au Chili tout à l'heure, Jean-Marie Durand. Il faut se souvenir qu'évidemment les Chicago Boys et Friedrich Hayek ont eu une action
Milton Friedman. Oui, c'était un laboratoire précisément de cette stratégie, de cette alliance objective entre le néolibéralisme et le néoconservatisme, où finalement la seule liberté accordée aux citoyens, c'est celle d'un sujet sur un marché, et la question d'autonomie en droit, en politique, est évidemment pas leur sujet. Et c'est pour ça que quand on entend Alain Finkielkraut dire que le sujet de droit est un mufle aujourd'hui, Finkielkraut est une autre cible évidemment assez importante du livre de Justine Lacroix et Jean-Yves Franchère. Finkielkraut avait dit par exemple qu'il est cité dans le livre qu'une incivilité endémique serait inhérente à la société des individus de droit. Vous voyez bien que cette idée quand même que le sujet de droit comme une sorte de mufle, évidemment c'est quand même spécieux quand même comme argument. Je veux dire, au moment où précisément les droits sociaux se réduisent, au moment où les protections elles-mêmes précisément sous le feu des politiques néolibérales depuis 30 ans les réduisent à peu de choses, on a un peu halluciné d'entendre que les individus ont des droits partout. Et d'une certaine manière, nous-mêmes, je pense qu'autour de cette table, quand un type écoute parle très fort au téléphone sur son portable dans le métro, ou met ses pieds je ne sais où, etc., ça peut nous énerver aussi. Enfin, j'ai des incivilités, je veux dire, bon, c'est assez agaçant pour tout le monde, mais les indexer à l'idéologie des droits de l'homme, c'est absolument un argument qui n'est complètement spécieux et complètement mais irrationnel.
Même si encore une fois Justine Lacroix et Jean-Yves Prancher reconnaissent
qu'il y a un contexte
qui est celui du droit à, c'est-à-dire la revendication d'avoir le droit à. Catherine Portevin, il ne la nie pas.
Non, mais c'est-à-dire qu'il est de coutume d'opposer la déclaration de 1789 qui était le droit de l'homme et du citoyen, donc le droit de, à celle de la déclaration universelle de 1948 qui ouvre plutôt les droits sociaux, ce qu'on a appelé les droits sociaux. c'est-à-dire le droit à la santé, au bonheur, enfin bon, au travail, etc. Dans le précédent livre, il récusait beaucoup cette dichotomie un peu trop forte, mais c'est véritablement cette question des droits A qui est problématique chez beaucoup de ces penseurs qui sont très très ambivalents avec l'héritage moderne. Un point sur la civilité, moi j'ai trouvé que j'étais assez étonnée en fait d'avoir cet arrêt sur image dans ce livre-là, parce que ça me semblait un détail. Et en fait, comme la manière dont il l'aborde, je trouve ça très intéressant, parce que finalement, parce qu'on a vu fleurir tous ces livres sur la politesse, la galanterie, et quelquefois certains livres qui étaient assez plaisants, enfin bon, celui de Reynaud sur la politesse était plutôt pas mal. Et je dis, mais qu'est-ce qui leur prend à tous là de s'intéresser à cette question-là, enfin, et c'est vrai que en pointant des choses assez pourquoi pas sur la question de la galanterie notamment, par exemple, dans le contexte de la crainte de la judiciarisation de toutes les relations sexuelles ou privées, enfin bon, il y a toujours des contextes un peu sociétaux, disons, voilà. Mais ce que je trouve intéressant en lisant ce passage-là, je me suis dit qu'effectivement il y a quand même quelque chose d'un peu d'un haut ridicule de tous ces auteurs qui se mettent à s'accrocher à ces questions de politesse. Moi, je trouvais qu'au moins Nadine de Rothschild, finalement, ça valait aussi autant, et c'était plus rigolo. Parce que là, franchement, il y a une farce d'une mise au sérieux, de prise au sérieux de la question de la civilité que je trouve assez délirante. Et qu'il démonte très très bien dans ce livre-là.
Et par ailleurs, juste quand même une chose, c'est que les auteurs ne fétichisent pas non plus les droits de l'homme. Ils font référence au travail évidemment séminal de Claude Lefort sur la question des droits de l'homme, qui lui-même disait que les droits d'homme ne sont pas un dogme en soi. Les droits d'homme ne sont que ce qu'ils appellent une coordonnée nécessaire au débat démocratique. C'est-à-dire, en fait, ils offrent un cadre d'un monde commun, habitable par tous, à partir duquel s'organise une délibération collective sur ce qu'on estime être le juste ou injuste, légitime ou illégitime. Et les droits d'homme, c'est ce cadre-là, c'est cette coordonnée-là. C'est pas non plus une sorte de religion comme tous les critiques des droits de l'homisme le pensent et le font croire.
Il cite aussi la critique, on va dire, plus conservatrice hein, des droits de l'homme, qui ferait tendre la société vers une société sans limites. Hein. La notion des limites, on l'a vu apparaître beaucoup ces dernières années dans cette littérature-là. Il cite ici Pierre Manant, qui est évidemment l'un des penseurs très très importants de ce mouvement-là, et qu'il faut lire pour comprendre un petit peu de quoi il retourne, et justement qui oppose aux droits de l'homme, par exemple, les droits naturels, et pareil, il se coltine, en quelque sorte, cette critique des droits de l'homme, Jean-Marie Durand, pour dire non, ce n'est pas vrai, les droits de l'homme ne tendent pas vers une société sans limite. Certes, il y a un refus de toute forme de domination dans les droits de l'homme, mais les droits de l'homme n'empêchent pas, par exemple, un débat qui est actuel, n'empêche pas de dire que le voile n'est pas souhaitable, ou peut même interdire le voile intégral, par exemple, par la loi. C'est pas contre les droits de l'homme.
La question, c'est que là, les droits de l'homme, c'est juste encore une fois une coordonnée, c'est-à-dire que c'est une manière de poser le cadre possible d'un débat, et en effet, aux citoyens de décider, ce qu'ils estiment être justement les conditions d'un monde commun. Et c'est vrai que cette délibération-là, elle existe de ce point de vue-là. Et c'est vrai que c'est cette tradition de critiquer les droits de l'homme, ils en parlent aussi dans le livre un peu rapidement. Elle a aussi une vieille histoire. Hein. Elle remonte à la pensée, disons, conservatrice du 18e, du 19e.
Contre-révolutionnaire,
Bonald, le maître, on les connaît par cœur. Bon. Et c'est vrai que elle a aussi un fond historique. Hein. Je veux dire, on n'en est pas sorti. C'est vrai qu'elle est réactivée beaucoup depuis 30 ans. Mais elle est aujourd'hui, je trouve, en tout cas dans ce petit livre-là, extrêmement déconstruite de manière très convaincante. Et franchement, je vois pas très bien comment aujourd'hui un lecteur de ce livre-là pourrait s'y retrouver, quoi.
La réflexion que je me suis faite après la lecture de ce livre, et aussi un peu celle de Francis Wolff, c'est que finalement, ce qui est vraiment en danger, c'est précisément l'individualisme. C'est la définition même, ou l'individu. La définition même de l'individualisme, de l'individu, c'est ça qui est plus en danger que peut-être la question du vivre ensemble, enfin, l'indépendant évidemment de l'autre. Mais que, à force d'attaquer l'individualisme, on finit par complètement déstabiliser même la possibilité de l'individu d'être un individu.
Et puis il y a aussi une façon de réhabiliter dans ces deux livres la façon même d'avoir des principes, la légitimité d'avoir des principes, puisque dénoncer les droits de l'homme, nous disent Justine Lacroix et Jean-Yves Franchère, en raison des mauvais usages qui peuvent être faits, des dérives, ça reviendrait à exiger des principes dont on ne peut jamais faire mauvais usage, et évidemment, ça nous interdit d'avoir des principes, Jean-Marie Durand.
Non, mais c'est vrai que l'individualisme, c'est une vraie question, mais comme disait Castel, il y a deux individualismes, hein. Il y a un individualisme positif et un individualisme négatif. Un individualisme positif, c'est celui qui, par définition, repose sur des politiques de soutien, notamment de l'État l'État de droit, l'État social. C'est précisément la condition de possibilité d'une autonomie pleine et souveraine. Et c'est ce que les droits de l'homme permettent. C'est toute la tradition des droits de l'homme, elle ne sert qu'à ça. Et c'est ça qui est attaqué.
Justine Lacroix, Jean-Yves Franchère, Les droits de l'homme rendent-ils idiots? C'est donc aux éditions du Seuil, dans la collection La République des idées.
L'instant critique.
L'instant critique, les dernières minutes de cette émission, Jean-Marie Durand, Catherine Portevin, des minutes dans lesquelles vous allez donner des conseils plus culturels, on va dire, à nos auditeurs, Jean-Marie Durand.
Moi j'avais un autre livre là, parce que qui faisait un peu écho au débat d'aujourd'hui sur la question de l'humanisme. C'est un livre qui est sorti là il y a quelques semaines déjà d'un philosophe allemand qui s'appelle Wolfram Ellenberger. Le livre s'appelle Le temps des magiciens, c'est un récit historique. C'est plus un livre sur la manière d'exister philosophiquement qu'un livre philosophique en tant que tel. C'est pas le Francis pour le dire un peu vite, mais qui est un livre assez documenté sur justement la génération de la pensée philosophique de l'entre-deux-guerres en Allemagne, incarné par quatre auteurs évidemment mythiques, Wittgenstein, Heidegger, Cassirer et Walter Benjamin. Et le livre essaie de raconter comment cette génération-là a essayé précisément de réinventer précisément une autre manière de réfléchir pour justement se détacher de l'humanisme classique qui a réfléchi à l'idée de progrès, à la question de l'héritage des Lumières dont on a parlé beaucoup. On n'a pas parlé non plus d'Antoine Lilti, mais je crois que vous l'aviez évoqué en début d'année, mais c'est vrai que c'était un livre important aussi sur cet héritage ambivalent des Lumières qui est aujourd'hui rediscuté en permanence. Et ce livre, Le temps des magiciens, met en avant vraiment la manière dont ces quatre philosophes, et puis d'autres, hein, parce qu'on voit aussi Abby Warburg, Hannah Arendt, d'autres philosophes allemands de cette époque-là existaient. Et c'est un livre passionnant sur précisément comment aujourd'hui la pensée s'est réinventée, comment aujourd'hui elle est encore féconde dans le champ de la philosophie. Ça s'appelle Le temps des magiciens. C'est un livre très facile à lire qui fait un peu penser aussi au livre de Sarah Bakwell qui s'appelait Au café existentialiste, qui racontait aussi de manière très incarnée l'existentialisme français de l'après-guerre, avec des portraits comme ça très justes, très habités. Et là on voit Walter Benjamin également vraiment sans physiquement. Et c'est un livre quand même assez important, je trouve.
Ouais, le livre de Sarah Bakwell dont il avait été question ici, qui m'avait enfin fait comprendre la phénoménologie. Et donc c'est pas peu dire.
Et Ellenberger était le rédacteur en chef de Philosophy Magazine en Allemagne.
C'est vrai, exact.
Voilà qui est dit, Catherine Portevin. Et vous avez un conseil. Alors, peut-être pour nos auditeurs.
Oui, un conseil aussi un peu sur l'universel, autre chose d'universel, l'amour. Je voulais parler de l'exposition que le Palais des Découvertes a ouverte le 8 octobre, qui s'appelle De l'amour, en reprenant ce titre stendhalien, et qui va être visible à Paris jusqu'au 30 août 2020, donc nous avons un peu le temps. C'est un sujet un peu osé, finalement, pour un lieu scientifique, de s'attaquer à ce sujet qui évidemment mobilise beaucoup d'autres savoirs et disciplines et qui est particulièrement insaisissable. Mais je trouvais que l'exposition avait été bourrée d'idées amusantes ou intéressantes. Voilà, elle est très pédagogique. Je pense qu'elle s'adresse aussi beaucoup à des lycéens, même si elle est conseillée plutôt à des plus de 15 ans, parce qu'il y a quelques images et quelques textes un peu osés. Et en fait, on rentre dans cet espace avec un grand cœur en plume. Après, il y a toute une partie qui essaye de décrypter un peu tous nos attachements. Alors il y a un endroit où il y a plein d'ours en peluche, c'est tout à fait plaisant. Enfin, on passe, disons, du doudou au coup de foudre. Et puis évidemment la partie scientifique, avec la fameuse ocytocine, qui serait l'hormone qui permettrait l'attachement et le coup de foudre, est tout à fait passionnante. Et voilà. Et je trouve que c'est les amours en ligne, les SMS, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que la sexualité se construit, comment est-ce qu'on choisit son type de sexualité, toutes ces questions-là sont abordées. J'aurais une petite réserve sur le fait que l'acception de l'amour peut être aussi celle de l'amour universel au sens de l'amour de l'humanité. Et là, bon, il y a quelques allusions et quelques portraits de grands militants des droits de l'homme, évidemment, et de l'inévitable Greta Thunberg.
La bouche, la boucle
et là, bon, là, on est sur la version sentimentale de la belle âme et je crains que ça soit pas tout à fait approprié.
C'est toujours l'écueil, hein, c'est toujours l'écueil quand on parle de l'amour. Il faudrait toujours terminer par l'amour, mais ça nous mène directement dans cet écueil, Catherine Portevin. Je rappelle les deux livres dont il était question ce soir. Francis Wolff, Plaidoyer pour l'universel aux éditions Fayard. Justine Lacroix, Jean-Yves Pranchère, Les droits de l'homme rendent-ils idiots? C'est aux éditions du Seuil. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar. À la prise de son, Alain Joubert. Vous pouvez évidemment retélécharger, réécouter cette émission sur notre site franceculture.fr à la page d'avis critique. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.